l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'Aime, l'émission, le magazine de Radio Évasion avec Pauline Huon, docteur en histoire antique. Et c'est dans l'Antiquité romaine que nous nous promenons avec elle depuis quelques temps. Voici déjà la troisième émission de cette série. La période est vaste, du 1er siècle avant notre ère au 5e après. Bref, tout l'Empire romain ou presque. Et Pauline Huon a exploré cette période sous un angle particulier, bien sûr. Celui du corps, des corps, mais aussi de tous les rites et rituels rattachés à cette corporalité. Notre enveloppe charnelle est en effet toujours en pleine évolution. Les transformations des corps servent de repères sociaux aussi, forcément. De la naissance à la mort, nous progressons donc. Après la prime enfance, puis l'adolescence qu'on ne qualifiait pas ainsi dans l'Antiquité romaine, nous voici parvenus au seuil d'un acte social par excellence, puisqu'il fonde la cellule familiale, le mariage. Bonjour Pauline Huon.
Bonjour.
Alors on va revenir déjà sur l'âge du mariage, parce qu'on en avait un peu parlé dans la précédente émission. C'est intéressant de revenir sur ce décalage entre l'âge officiel du mariage chez les Romains et puis l'âge réel, puisque les Romains se préoccupaient quand même de maturité sexuelle des jeunes filles et des jeunes garçons.
Oui, tout à fait. Alors, quand on regarde les textes de loi, on a deux âges, on va dire, qui ressortent. 12 ans pour une petite fille, hein, on peut dire, et 14 ans pour un garçon, âge qui correspond à la prétendue puberté. Alors après, on l'a vu lors de la dernière émission, cette puberté, elle fluctue selon les individus. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est que ces âges qui sont avancés ne sont pas les âges réels du mariage. Dans la réalité des faits, on a des mariages qui sont quand même un peu plus tardifs. Ces âges de 12 ans, 14 ans, ils correspondent essentiellement au mariage de l'aristocratie. Et surtout, puisque c'est ces âges-là qui nous sont le plus commentés par les auteurs, ceux des enfants de la famille impériale. Mais ces âges précoces, ils s'expliquent surtout par des raisons dynastiques. On aime bien caser assez vite, finalement, ces jeunes filles. Et aussi, ça correspond à une prétendue pureté de la jeune fille. Et donc, on a plusieurs auteurs qui mentionnent justement le fait, enfin, l'importance de marier sa fille avant qu'elle ne soit souillée. Alors, ça peut être souillé par des rapports sexuels, mais aussi par le premier sang virginal. Mais moi, ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse, c'est que finalement, ces âges très précoces, ils n'étaient pas tant que ça au final. Quand on regarde les inscriptions épigraphiques, surtout, on remarque que les jeunes filles qui sont commémorées sont souvent mariés vers 15 ans et les jeunes hommes vers 20 ans. C'est-à-dire qu'on a déjà des jeunes hommes qui vont suivre des études, qui vont être formés aux armes avant de se marier, et des jeunes filles qu'on va attendre que ces jeunes filles soient pleinement pubères et qu'elles soient surtout capables physiquement d'accepter en tout cas un acte sexuel.
Oui, c'est ça, il y a des sortes de critères en fait qui sont déterminés pour dire qu'une jeune fille, ça y est, elle est capable de coucher avec un homme en fait, quoi.
Oui, tout à fait, qu'elle soit corporellement capable. Alors après, vous avez, on en parlera tout à l'heure, je pense, lorsqu'on parlera de l'acte sexuel, mais il s'est vraiment vécu comme un traumatisme pour cette jeune fille qui arrive toute innocente, alors que le garçon, lui, au contraire, a déjà une expérience sexuelle. Souvent, son père, ses oncles, ses amis vont lui offrir des prostituées pour ses anniversaires, etc., où il va être dans des riches familles. Souvent, on va trouver une femme âgée qui va initier sexuellement l'homme. La femme, elle est complètement lâchée dans la nature. Et tous les textes qui ressortent sur ce premier acte sexuel sont celui d'une sorte de viol légal, entre guillemets, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus, je pense.
Et alors justement, pour les hommes, pour les jeunes garçons, il y a eu des rites de passage, en fait, de présentation à la société, si on veut. Pour les femmes, il n'y en a vraiment pas tellement eu. Et donc, avant de se marier, est-ce qu'elle a, elle a un petit rite de, comment dire, de nubilité, d'objet à donner, un peu comme ses collègues masculins le font à d'autres occasions que le mariage?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, le rite du mariage, pour la jeune fille, c'est son passage de l'enfance à l'âge adulte. Et donc, on a plusieurs dons d'objets, comme il se faisait aussi pour les garçons. On va abandonner, en fait, les attributs de son ancien statut. Et donc, ces attributs, ça va être la tenue vestimentaire, donc qui est la toge prétexte également. Alors, avec des... Enfin, moi, j'ai essayé de montrer qu'effectivement, cette toge, elle n'était pas forcément portée par les jeunes filles. Les jeunes filles qui sont nubiles vont s'habiller un peu comme des femmes, avec des tenues un peu plus affriolantes pour séduire justement les garçons. Mais quand même, traditionnellement, on offre la toge prétexte au dieu protecteur de la famille, Olar. Et on a également un auteur, en particulier Arnob, qui est un auteur chrétien, qui se questionne en se demandant pourquoi la jeune fille offre sa toge à une déesse un peu obscure, on ne sait pas exactement de qui il s'agit, qui s'appelle Fortuna Virginalis, donc la fortune virginale, ah oui. Qui serait la déesse qui protégerait justement son état de vierge. Et cette toge, ce que moi j'ai pu trouver, c'est que finalement ce serait la toge souillée par son premier sang virginal. Parce que vous avez plusieurs déesses comme ça qui vont accompagner la jeune fille et qui vont surveiller en fait ses règles. Donc ça va être Ména, qui est en fait la fille de Jupiter et de Junon. Ça peut être aussi Junon Lucine. Alors Junon, en fait, elle intervient quasiment dans tous les événements de la vie féminine, puisque c'est la déesse protectrice des femmes.
Ah oui, c'est pas seulement celle du mariage.
Non, elle intervient en fait avec des épithètes particuliers dans plusieurs étapes. Et donc en plus de cette toge, elle va offrir également ses jeux, les jeux qui sont représentatifs de son enfance. Alors ça va être des balles avec lesquelles elles vont jouer, des balles molles souvent, mais aussi et surtout la poupée, qui est vraiment le jouet féminin par excellence. Et qui n'est pas une poupée poupon telle que... Enfin, c'est vraiment la poupée qu'on pourrait appeler la poupée Barbie, puisque c'est une poupée qui a des formes vraiment de femme, avec des hanches développées, une poitrine, etc.
Et ces offrandes d'objets ont lieu vraiment la veille du mariage, très peu de temps avant le mariage
Alors, le problème qu'on a avec le mariage, c'est que les sources, elles sont très disparates. C'est-à-dire qu'on n'a pas une source qui va nous parler du rite du début à la fin. C'est-à-dire qu'on a plein d'éléments que nous, on va piocher et qu'on va reconstruire ensuite.
Alors, c'est quoi, par exemple, ces éléments? On peut les redonner hein.
Alors, ces éléments, ça va être des éléments autour de la tenue. Quelle tenue on porte? Quels gestes on va effectuer? Quels objets, justement, on va offrir? Alors, souvent, on part du principe que c'est la veille du mariage, mais après, on n'a aucune certitude, finalement. Mais en gros, si on reprend le schéma traditionnel des rites de passage, avec un rite de séparation de son ancien statut, une phase de marge, où on n'est pas encore, en tout cas pour le cas de la femme, pas encore, enfin plus une petite fille, mais pas encore une femme non plus, et ensuite des rites d'agrégation, où on va devenir une épouse.
Alors, allons-y, commençons. La veille du mariage, alors c'est surtout la jeune fille là, qui a droit à un traitement particulier, et notamment une tenue spéciale.
Elle va porter effectivement une tenue qu'on appelle une tenue transitoire. Elle va porter ce qu'on appelle une tunica recta, donc une tunique droite, qui est une tenue en fait archaïque, qui aurait été la première tenue, donc cette première tunique aurait été tissée par Tanaquil, qui est la femme d'un ancien roi de Rome, donc elle aurait une origine étrusque, royale et archaïque. Et ce qui est aussi particulier, c'est que cette tenue, elle est unisexe, c'est-à-dire que les jeunes filles, la veille du mariage, vont la porter, mais aussi les jeunes garçons lors du rite de passage. Et donc, finalement, on a une tenue qui est louée pour son caractère ancien, archaïque, et de fait, qui va être sacrée. Donc, on a cette tunica recta, et on a aussi ce qu'on appelle un reticulum, qui est en fait un petit filet qu'on appose sur les cheveux, qui va servir en fait à maintenir la chevelure en place. Et donc elle porte ce reticulum qui est d'une couleur bien particulière. Elle est décrite comme étant luteus par les auteurs anciens. Et luteus, c'est un jaune qui se rapprocherait un peu du jaune d'œuf. Et cette couleur jaune, elle a un pouvoir protecteur pour la jeune fille.
Les couleurs sont importantes. Et on peut supposer que si elle revêtait cette tenue un peu asexuée, finalement, c'était aussi pour la dernière préservation, on va dire. C'est ça
Oui, il y a vraiment un caractère protecteur de cette jeune fille.
Alors, le jour J, donc là, pour la tenue de la mariée, la tenue, tout son aspect corporel, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Il y a plein d'éléments. Je ne sais pas, est-ce qu'on les passe en revue? Essayons. Est-ce qu'elle a une tenue, déjà une robe de mariée, forcément?
Alors, il ne faut pas imaginer la robe de mariée telle que nous, on la voit aujourd'hui. On peut être un peu déçu, finalement, quand on regarde comment était affublée cette mariée romaine. Pourquoi ? Parce que ce qui va être important, c'est le caractère ancien et archaïque, encore une fois. Donc, le jour de son mariage, elle a une tenue vraiment bien particulière qui va en fait la distinguer de toutes les autres femmes. C'est-à-dire que d'un seul coup d'œil, on va repérer qu'il s'agit de la mariée. Pourquoi ? Parce qu'elle a tout d'abord un... Donc elle va être vêtue d'un vêtement du dessous qui va être cette tunica recta avec laquelle elle avait dormi
l'année
précédente. Elle la garde parce que ça va la protéger. Et par-dessus, elle va avoir une toge. Et là, ça peut paraître étonnant, on n'a pas une belle robe telle qu'on pourrait l'imaginer, mais une tenue unisexe également. Les auteurs vont pas forcément décrire ce vêtement comme une toge, mais comme un vêtement ample, flottant, qui va masquer en fait les formes de son corps. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'il ne faut pas qu'elle séduise les autres hommes qui pourraient être présents lors de la cérémonie.
Ah ouais, ça c'est une interprétation qui est à peu près admise. C'est...
Tout à fait, ouais. C'est vraiment quelque chose, c'est... Il faut qu'elle soit cachée, masquée. Et donc la toge, pourquoi ? Parce que à l'origine, à l'époque archaïque, la toge c'est un vêtement unisexe qui est arboré autant par les jeunes filles, enfin par les femmes que par les hommes. Et donc ici, ce qu'on veut, c'est finalement apporter une sorte d'aura ancienne à ce mariage, à cette mariée, et il faut qu'elle ressemble, entre guillemets, aux premières mariées romaines qui sont les Sabines, qui ont été justement kidnappées par les premiers Romains pour en faire leurs épouses.
Et comment on sait que les Sabines portaient des toges ?
Parce qu'on imagine, on interprète, puisque c'était la tenue qui était arborée par les premières femmes, on pense que ces Sabines étaient habillées justement d'une toge.
Ah oui, et cette référence aux Sabines est vraiment explicitée par les auteurs ou
Clairement explicité, oui, surtout par Plutarque qui va montrer finalement qu'on va reproduire, entre guillemets, ce rapt lors du mariage.
Rapt fondateur.
Rapt fondateur. Ouais. On pourra du coup, si j'ai le temps d'évoquer les gestes, on pourra évoquer justement ce rapt. Pour ce qui est de la tenue, donc on a parlé de la tunique, de la toge, et la pièce fondatrice du mariage, c'est ce qu'on appelle le flammeum, qui est un très long voile qui tire son nom de flamma, la flamme, et qui a une couleur de flamme, jaune-orangée. Certains auteurs la décrivent comme rouge, mais ils sont assez minoritaires. Mais c'est vraiment la couleur jaune, encore une fois, qui prévaut, qui est la couleur protectrice de la mariée. Et donc ce voile, c'est un voile qui va la recouvrir entièrement. Et on pense que ce voile, il est très ample et qui va tomber à peu près au niveau du ventre. Et pareil, ce voile va servir à protéger la mariée des regards indiscrets, mais aussi de tout ce qui pourrait être des omens défavorables, donc tout ce qui pourrait brouiller ou la cérémonie ou être de mauvais augure. Donc les bruits, on va éviter qu'elle voie aussi des choses inconvenantes. Et donc on a vraiment cette notion de protection de la jeune femme.
C'est une bulle un peu ce voile en fait.
Tout à fait. Et dernier élément, mais pour lequel on a beaucoup moins d'éléments, c'est les chaussures. Alors, c'est pas du tout les petites chaussures à talons, pas du tout. C'est des chaussures qu'on appelle des sockies, qui sont en fait des sortes de pantoufles en cuir souple, également de couleur jaune.
Ah oui.
Et sans talons, plats.
Bon.
Comme ça, on évite qu'elle se casse la figure aussi.
Tant qu'à faire, un côté pratique.
Tout à fait.
Alors, le corps de la mariée lui-même, c'était vraiment l'objet de grands soins. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, qu'elle était très, très préparée. Il y avait un bain, c'est ça ? Enfin, on ne sait pas, en fait, si c'était vraiment un bain, une immersion.
Alors, ça a été un des problèmes, en tout cas, que j'ai pu rencontrer. Alors, le mariage grec, c'est clair et net. Il y a un bain qui va être la première étape, justement, de la préparation de la mariée, avec une vraie procession qu'on appelle l'outrophorie. On va chercher de l'eau sacrée pour nettoyer, enfin pour laver, purifier cette mariée. À Rome, on n'a aucun auteur qui nous parle d'un bain.
Pourtant, ils aimaient les bains, les Romains.
Pourtant, ils adoraient les bains. Mais donc, on peut penser effectivement que les Romains, ils sont tellement portés sur l'hygiène que forcément, on avait une toilette. En tout cas, on n'allait pas s'habiller en étant sale, en sentant mauvais. Donc, on a un premier bain qui devait existait mais qui n'était pas ritualisé. Le bain rituel, en tout cas pour la mariée, c'est un bain qui vient après l'acte sexuel pour purifier justement la femme des souillures qu'elle a pu rencontrer du fait d'être en contact justement avec, avec l'homme, avec éventuellement du sang, avec du liquide séminal, etc.
Mais à part le bain, elle avait bien d'autres misères, on lui faisait bien d'autres misères. Enfin, donc il y avait déjà les coiffures. Alors ces coiffures, c'était une coiffure particulière pour le mariage, hein,
c'est... Alors c'est la coiffure qui va aussi définir la mariée quand elle ne porte pas son voile, qui est une coiffure qu'on appelle sénicrines, qui représente en fait six tresses. Alors là, pareil, vous avez des auteurs modernes, enfin des historiens qui vont s'écharper pour savoir à quoi ressemblait cette coiffure. On n'en a aucun exemple. C'est-à-dire qu'on a, à chaque fois qu'on nous représente une mariée, elle a son flammeum, donc on ne voit pas finalement la coiffure en dessous. On pense néanmoins qu'il s'agit de trois tresses de chaque côté qui sont ensuite ramenées en chignon au-dessus de la tête.
Et c'est une coiffure de vestale, c'est ça ?
Alors, ça, c'est aussi une des hypothèses, c'est que les vestales et les mariées partagent finalement plusieurs éléments de leur costume en commun et également cette coiffure qui représente, en fait, ou qui symbolise la chasteté de la femme et celle des vestales qui doivent rester vierges pendant toute leur prêtrise et la femme qui doit rester une femme chaste qui connaîtra qu'un seul homme.
La couronne végétale, pas forcément de fleurs d'ailleurs, c'est par-dessus le voile, enfin, comment ça se passe ?
Alors ça pareil, comme je vous disais, on a du mal finalement à reconstituer avec exactitude cette tenue parce que bah, les sources elles sont à piocher comme je vous le disais. Et donc, alors soit on imagine que la couronne est posée sur le flammeum, soit en dessous. Et là par contre ce qui est important c'est que la mariée va cueillir elle-même les fleurs qui vont composer cette couronne, les fleurs et les plantes aussi. Puisqu'on va trouver, alors les auteurs vont nous parler surtout de la marjolaine, de roses, de plantes en fait qui sont odorantes, qui vont entourer finalement la mariée d'effluves agréables, mais aussi des plantes qu'on appelle des werbenae, qui sont des plantes sacrées. Ça va être l'olivier, du laurier, des plantes qui sont dédiées aussi à des divinités, de la myrte aussi, pour rappeler Vénus. Et donc c'est des plantes, enfin des plantes qui vont composer justement cette couronne pour la placer aussi sous la protection des divinités.
Oui, on ne fait rien au hasard. De même que les bijoux. Alors, il n'y a pas de système de bagues de mariage comme nous, mais il y avait quand même une bague qui était échangée avant entre les futurs époux, c'est ça ?
Alors, ça fait partie des dons que va faire le futur marié lors des fiançailles. Et donc, il va offrir une bague à cette épouse qui va véritablement marquer le lien entre les époux et la promesse finalement d'un mariage futur. Mais il n'y a pas seulement cette bague. Alors la bague, elle est symbolique. Pour nous, on a vraiment cet anneau qui va être offert le jour du mariage. À Rome, pas du tout. Ça se fait en amont, mais on pense quand même que la femme va bien sûr porter cette bague le jour de son mariage. Mais elle peut porter aussi des boucles d'oreilles, des pierreries, des bijoux, etc. Et donc, selon les mariées, elles vont rivaliser de luxe. Finalement, on va placer ses plus belles parures pour être la plus belle le jour de son mariage.
Ah oui, il y a quand même des éléments d'apparat, finalement. Elle n'est pas que cachée dans sa bulle,
elle
sous son voile.
Elle n'est pas que cachée. Parce qu'en en fait, elle se déplace avec son voile qu'à l'extérieur de la maison.
Alors voilà, c'est ça. C'est là qu'on en parlera peut-être dans un instant. On va juste dire un petit mot de la tenue du marié. Est-ce que lui, il a une tenue spécifique et des soins spécifiques ?
Alors, il n'a pas vraiment de tenue spécifique. Par contre, il doit apporter un certain soin à sa tenue. C'est-à-dire qu'il ne va pas arriver mal coiffé, mal rasé, sentant le bouc. Hein. Il va arriver...
C'est pas le genre des Romains, de toute façon.
C'est pas le genre. Il faut qu'il soit bien coiffé, la barbe bien tondue ou bien taillée, on va dire. Et surtout, alors, il va porter une toge blanche étincelante, il faut qu'il soit le plus beau aussi, hein, quand même, le jour de son mariage, et une couronne sur la tête, une couronne de fleurs. En fait, en gros, on compare la tenue que porte le marié à celle que portent les hommes dans des occasions festives, notamment lors des banquets. Et élément très important, il soin de parfum. C'est-à-dire que le parfum, c'est pas quelque chose qu'on asperge sur soi, c'est quelque chose, c'est comme ça se présente comme une sorte d'onguent.
Un peu des huiles essentielles
C'est vraiment sous la forme d'une sorte de crème où on va appliquer du parfum. Et dans les textes, on a aussi souvent mention de mari qui sent très fort le parfum.
Ça cocotait dur dans les mariages. Alors ce mariage, il a plusieurs étapes, on va dire. Enfin, la cérémonie elle-même, il y a une partie privée, une partie publique. Enfin, ça commence par une partie privée, c'est ça ?
Alors la partie privée, elle commence d'abord par la préparation du mariage.
Ah oui, ça fait partie du mariage.
Ah oui, ça fait partie du mariage. C'est l'étape justement de préparation. Et donc, je vous parlais de la tenue tout à l'heure. Il y a un autre élément qui est capital aussi lors de la préparation de la mariée, c'est donc la coiffure, je vous disais, en citresse. Mais surtout, elle est peignée avec une lance qu'on appelle la Hasta Caelibaris, qui en fait, ça signifie la lance du célibataire. Et dans les temps anciens, on pensait que cette lance appartenait au marié. Et qu'en plus, alors pour que ce soit encore plus formidable et encore plus protecteur, il fallait que cette lance ait été et tué un gladiateur et été retiré du corps encore chaud du gladiateur.
C'est charmant.
Et donc, en fait, on va rappeler justement l'univers un peu guerrier et on va séparer la coiffure de la chevelure de la femme. Chevelure qui, dans la Rome antique, passe pour être l'abri de démons. Et donc, toute cette chevelure, elle est empreinte de fantasmes.
Pas que dans la Rome antique, d'ailleurs.
Pas que dans la Rome antique, mais vraiment, ça vient de là. Cette idée la chevelure de la femme, elle est un petit peu...
Maudite, ouais, enfin dangereuse en tout cas, quoi. D'accord.
Exactement. Donc il y a cette fameuse préparation. Ensuite, on a ce qu'on appelle la cérémonie, en tout cas l'union proprement dite, avec les époux qui vont échanger des vœux et qui vont.
Ce sont des vœux formels ou c'est eux-mêmes qui les choisissent, enfin qui les écrivent, entre guillemets.
Alors, c'est écrit sur des tablettes qu'on appelle des tablettes nuptiales. Et pour que le mariage soit valable, il faut qu'il se déroule en présence de témoins. C'est vraiment les témoins qui vont garantir l'union.
Mais il n'y a pas de prêtre vraiment comme il pourrait y avoir nous pour nous.
Non, ouais. Pas du tout. Il n'y a pas de prêtre. Alors, dans le cas des mariages impériaux, forcément, vous aviez des prêtres qui étaient présents lors de la cérémonie, mais c'est pas comme pour nous un élément indispensable en tout cas de la cérémonie. Ils échangent un gâteau qu'on appelle un phare. Alors ça n'a rien à voir avec le phare breton.
Ça s'écrit comment phare
Pareil.
Ah oui, d'accord. Bon.
Mais ça signifie de l'épeautre. Donc c'est un petit gâteau d'épeautre. Qui vont se partager.
Donc ça, c'est dans la cérémonie privée.
Enfin, exactement, qui se déroule en fait chez le père de la jeune épouse. Donc ils s'échangent un gâteau, ils prononcent des vœux. Et vous avez un geste qui apparaît beaucoup dans les images, qui s'appelle la dextrarum junctio, qui signifie la poignée de main en fait, où ils vont sceller l'accord en se serrant la main droite.
Alors, là, c'est le côté économique du mariage, là.
Tout à fait, exactement. Mais alors, on rigole, mais dans le mariage, alors je vous donne le mariage des patriciens, donc mariage par excellence. Mais dans d'autres cas, donc là, c'est vraiment la cérémonie, mais vous avez plein de mariages où il n'y a aucune cérémonie qui se passe, on va dire, au bout d'un... Alors, un des mariages les plus pratiqués, c'est le mariage per usum, par l'usage. C'est-à-dire que si vous habitez pendant un an sans avoir découché plus de 3 nuits chez votre époux, vous êtes considéré comme marié.
Oui. Ah, c'était pas trop formel, alors, finalement.
Ouais. Non, finalement, ça l'était pas tant que ça. C'est vraiment, en fait, les témoins qui vont assurer l'union du mariage.
Donc, quand on fait un mariage chez les patriciens, c'est... oui, c'est peut-être parce qu'on a besoin de formaliser un contrat, et puis c'est aussi pour permettre à la jeune femme, sans doute, justement, d'entrer dans la vie adulte, quoi.
Ouais. Tout à fait, c'est vraiment une étape qui va être importante pour la jeune fille et pour faire son entrée, entre guillemets, dans le monde.
Et justement, il y a la partie publique du mariage.
Tout à fait. Et donc là, vous avez, une fois qu'en gros, on a échangé les accords entre les époux, qu'on a mangé son phare, et ben, vous avez les amis du marié qui viennent arracher la jeune femme des bras de sa mère. Et donc là, en fait, on a une simulation ou une reproduction de ce fameux rapte des Sabines. Et donc là, la jeune fille, c'est quelque chose qui est très théâtralisé. Elle doit faire semblant de pleurer, de se cacher, de ne pas vouloir venir. Et ensuite, donc, les amis l'arrachent des bras de sa mère. Et elle va effectuer donc un parcours de la maison de son père à sa nouvelle domus, à la maison de son époux.
Et ce défilé, il est un peu festif quand même ou...
Il est très très festif et on pourrait même dire qu'il est assez grivois. C'est-à-dire que dans le cortège, vous avez ce qu'on appelle des chants fesnins, qui sont l'ancêtre de nos chansons paillardes en gros, on va dire beaucoup de grossièretés qui ont aussi pour but d'avoir une vertu fertilisante pour la jeune femme. Et donc vous avez énormément de symboles dans ce cortège. Vous avez des enfants, vous avez des noix qui sont jetées. Nous, on balance du riz sur nos époux ou maintenant des pétales de rose. Eux, c'est des noix.
Ça fait plus mal. Ah oui, pourquoi ? On ne sait pas.
Si, parce que les noix, en fait, c'est un des symboles de l'enfance. On ne joue pas aux billes, on joue aux noix. Et donc, en gros, on abandonne, encore une fois, les insignes de l'enfance pour passer dans l'âge adulte. Et donc, il y a tout ce cortège. Alors, il serait beaucoup trop long d'expliquer en détail, mais vous avez plein de symboles qui se font. Et après, on a le fameux rite d'agrégation où la jeune femme arrive chez son époux. Et là encore, vous avez pas mal de gestes qui sont bien codifiés avant de rentrer. Elle doit étaler sur les montants de la porte de la graisse.
Alors, de loup, c'est ça ?
De la graisse de loup dans les temps archaïques. Après, c'est un peu plus difficile de trouver du loup, donc on la remplace par de la graisse de porc ou de l'huile. Et on place des bandelettes de laine aussi pour sacraliser en fait, l'entrée de cette porte.
Mais on ne sait pas si le Romain portait la Romaine. On n'en sait rien.
Si,
pour franchir le seuil.
Pour franchir le seuil, en fait, la jeune femme ne doit pas passer toute seule au-dessus du seuil, parce que si elle trébuche... Si elle se cogne, ça serait un mauvais présage. Et donc, alors c'est pas l'époux qui porte sa femme. Lui, on sait pas trop ce qu'il fait d'ailleurs. Vraiment, dans les sources, on parle pas vraiment de lui. On sait pas ce qu'il fait. Mais par contre, les amis de l'époux soulèvent la femme pour passer le seuil. Et là, on sait que l'époux l'accueille avec le feu et l'eau, et donc il lui lave les pieds pour la purifier, entre guillemets, et donc là, elle va offrir des pièces de monnaie, trois pièces, une pièce à son époux, au genius, en fait, de son époux, à l'essence divine de son époux, une pièce au lard de la maison, donc les dieux protecteurs, donc en gros, elle fait une offrande à ses nouveaux dieux protecteurs, et une pièce au lard compitales, qui sont les dieux qui protègent, en fait, le quartier.
Et ensuite, il y aura la nuit de noces, mais alors, on n'a plus le temps d'en parler, mais c'est pas tellement grave, puisque la prochaine émission qu'on va consacrer au corps dans l'Antiquité romaine, ce sera justement sur la conception. Donc on pourra revenir sur ce premier acte sexuel et sa symbolique. Merci Pauline Huon.
De rien.